Présentée par Anti-Rouille Métropolitain. C'est le grand blitz avant l'hiver. Protégez votre véhicule contre la rouille et prenez rendez-vous sur antirouille.com. Anti-Rouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Boulevard, le pit stop.
Yes, mon homme!
Avec Denis Gravel et Annick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le pit stop avec Gravel et Marceau.
Denis qui est en congé, on a décidé de se gâter et prendre les meilleures collaboratrices de la station pour ce qui est de la semaine. Donc, on commence avec Antonine Iacarini. Salut Antonine.
Bon lundi.
Félicitations pour l'émission avec Jeff hier. Vous avez bien couvert les élections municipales. Puis moi, ma grosse fierté, c'est qu'on faisait de la radio à Québec et on était diffusé à Montréal, alors que trop souvent dans les dernières années, ça a été le contraire. Merci
c'est vrai,
au patron d'avoir mis ça en place. Je trouve ça sensationnel. Puis on avait un journaliste aussi qui était dans le secteur de Montréal,
yes,
qui vous donnait tous les renseignements qui concernaient Montréal. Fait que félicitations pour votre belle soirée hier. Vous avez travaillé très, très fort.
Puis on a vraiment eu du plaisir, en
okay,
fait.
OK, oui,
plus,
on a eu du
c'était vraiment une belle
côté.
Soirée.
Avec
ouais.
M. Farnell.
Avec Farnell, avec nos collègues sur le terrain.
Max,
avec
Pascal.
Max qui suivait les résultats en temps réel. D'ailleurs, excellent travail, Max, parce que moi, tu sais, je suis une craque de politique, puis suivre des soirées électorales, c'est comme mon quotidien un peu, là, tu sais. Puis j'ai mes techniques, puis je me fais des tableaux, puis là, j'ouvre tous mes onglets, puis tout ça. Puis honnêtement, Max, t'étais vraiment sur la coche parce que des fois, je me disais, hey, là, faudrait vraiment qu'on parle de ça. Puis là, Max, tu sais, c'est pas qu'on fait de la télépathie, puis t'étais toujours sa bonne affaire.
Au municipal, je dois dire que j'ai eu moins de fun un petit peu au niveau suivre les résultats qu'au fédéral.
Je me doute pourquoi.
Puis là, c'est chaque ville qui a son propre petit système, puis des fois, tabarouette.
Hey, le site de Gatineau, là.
Ouais.
je leur décerne mon prix citron.
Pis... T'as fait des cauchemars, toi aussi. Moi, je voyais le site de Gatineau toute la nuit.
C'était finalement, la mairesse sortante est repassée.
Ben oui, ça a été une des
courses. Parce que quand on s'est quitté vers 10h45, elle est en retard quasiment par 2000 voix, puis
ouais,
elle a réussi à se faufiler.
Ben c'est ça, parce qu'on surveillait beaucoup, ben en tout cas, moi, je surveillais beaucoup les maires et mairesses qui étaient passées dans la vague de 2021, jeune maire-mairesse. Maude Marquis-Bissonnette à Gatineau, ça, elle ne faisait pas partie de cette bague-là. Elle est arrivée après en élection partielle, mais elle s'inscrivait un peu dans cette foulée-là. Puis effectivement, pendant la soirée, là, on pensait qu'elle allait passer à la trappe. Donc, plein de courses intéressantes. Puis oui, effectivement, hier soir, on a vraiment une belle soirée. C'est plus dur hein, de couvrir les municipales que d'autres paliers de gouvernement parce que c'est tellement de nombreuses municipalités, plein d'informations. Mais je pense qu'on a eu une belle soirée très intéressante.
Ouais, qu'est-ce qui fait en sorte que le taux de participation pour ce qui est des élections municipales est toujours très bas, historiquement très bas?
Plein de choses.
Pourtant, c'est de la politique directe, là.
C'est très direct, ça touche les gens, mais je pense que les gens le prennent beaucoup pour acquis. C'est des juridictions municipales qui, peut-être des fois, les gens lèvent un peu le nez là-dessus. Ah, c'est pas grave, pas important, c'est facile. Alors que c'est vraiment le contraire. Il y a aussi un enjeu au Québec, puis probablement que c'est comme ça dans d'autres pays aussi, où on n'a pas beaucoup de médias locaux. T'sais, c'est sûr qu'à Québec, ça va, on a un écosystème médiatique qui est intéressant, mais il y a plein de régions dans lesquelles ils ont un petit journal, tout petit, une radio, avec pas nécessairement beaucoup de moyens. Donc, pour que les enjeux se rendent jusqu'aux oreilles des électeurs, ça peut être un peu plus compliqué.
Écoute, juste à Bécomo, il y a eu un débat seulement.
Ben, c'est ça.
Je lisais là-dessus, et pourtant, c'est une élection très importante entre trois candidats qui avaient des visions différentes.
Tu lisais sur les élections à Bécomo?
Ben oui.
Ça, c'est un vrai.
On n'a pas les mêmes mercredis soirs.
Non, vraiment.
Ils en ont eu un, on aurait pu leur en donner quelques-uns. Nous autres, on
c'est ça.
Des 74.
Ouais.
Mais t'es-tu d'accord que c'est à Québec qui était le show, là? À tort ou à raison, là, pour les mauvaises ou les bonnes raisons, à Québec, ça brassait en tabarouette comparativement à Montréal, comparativement à Trois-Rivières, Drummondville. C'était des scandales par-dessus scandales.
Ben c'est ça. Puis c'est ça qui me rend un peu triste aussi quand je fais le bilan de ces élections municipales, c'est que, par exemple, si on compare avec Montréal, les gens disaient c'était plate. Mais tu sais, c'est pas parce qu'on s'arrache pas la tête que c'est pas une bonne élection municipale non plus. Bon, à Québec, on avait beaucoup de candidats avec des positions différentes. Moi, c'est plus ça que je trouve intéressant que le fait que ça se soit lancé de la boîte. C'est sûr qu'on a sorti notre popcorn une couple de fois en voyant Stéphane Lachance puis sa maman, se faire la guerre,
s'entre-déchirer.
Et Bruno Marchand devait être le plus content de tout ça. Puis on l'a vu le résultat hier. Mais est-ce que ça prend vraiment des feux d'artifice à chaque fois? T'sais, moi, je pense que ce qui fait la différence pour une bonne élection municipale, c'est une variété de positions, des débats sur les idées, puis de faire en sorte que les enjeux se rendent aux oreilles des électeurs. Puis c'est vraiment, vraiment un défi parce que les bonnes nouvelles, les positions, voici mon programme, c'est plus difficile aussi d'accrocher les médias.
Là, on va avoir 200 gains à la mairie de Québec, dans le conseil municipal. Deux chefs qui ont une forte personnalité, qui ne s'en laissent pas nécessairement imposer. Des idées qui sont en porte-à-faux. Pour ce qui est de l'aspect citoyen, on ne veut rien savoir du tramway. Et pour ce qui est du maire Marchand, ben c'est le pro-tramway en disant que ça va être bon pour notre économie et tout ça. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que ce qu'on jasait ce matin avec les gars, c'est que tu sais l'opposition, c'est pas là pour s'opposer systématiquement. Moi, je vois l'opposition fédérale, provinciale et municipale comme étant une opposition qui doit regarder le plan de la mairie, étudier tout ce qu'on a à faire, s'il y a des ajustements à faire, les proposer, mais pas toujours être opposé systématiquement. Là, on a deux gars sanguins. On s'en va sur un 4 ans de bonheur ou un 4 ans d'enfer?
C'est une bonne question. Moi, je pense que la dynamique va quand même changer beaucoup. Par contre, faut pas. C'est pas parce que c'était pas polarisé sur les idées dans notre dernier conseil municipal que c'était la joie. On se rappelle quand même que même si les positions entre Québec d'abord, avec Claude Villeneuve comme chef de l'opposition, et Bruno Marchand et son équipe avec Québec fort et fier, il y a des positions qui se ressemblent. C'est sûr que le sujet principal, c'est toujours le tramway. Donc, à partir du moment où les deux parties étaient pro-tramway, on a l'impression que ça ne va pas s'entre-déchirer. Et pourtant, ça ne s'aimait pas beaucoup là, dans ces deux équipes-là. Il y a eu des affaires d'intimidation, il y a eu de la chicane. Donc, ça peut être surprenant. Avec Stéphane Lachance qui débarque comme chef de l'opposition avec un nouveau parti politique Respect citoyen, moi, j'ai hâte de voir la nouvelle dynamique. Hier, on a eu Bruno Marchand en entrevue là, en fin de soirée, puis on lui a posé la question comment il pense que ça va être face à cette nouvelle opposition. Puis il a dit, bien, j'espère que ça va être constructif. Ça va être, la balle est dans leur camp parce que nous, on veut travailler ensemble.
Ouais. Marchand s'est fait rassembleur hier.
Bien, vraiment. Puis c'est ça, c'est le facile d'être de bonne humeur puis rassembleur quand tu as une vague aussi convaincante. Mais Respect citoyen, quand même, 23% là, pour Stéphane Lachance, je trouve que ça a légitimé le positionnement de Stéphane Lachance dans l'écosystème politique de Québec. Ça en fait un chef de l'opposition qui, même s'il n'y a pas un grand nombre de conseillers, va être une voix importante dans la région. Et même si, pour moi, hier, le résultat, le tramway, c'est réglé, là. OK, on avance avec le tramway. Par contre, les travaux, c'est pas fait. Il va y avoir plein de surprises. Donc, Stéphane Lachance va porter cette voie-là sans nécessairement s'opposer, surtout, comme tu dis, ça va demeurer un dossier très intéressant pour Respect citoyen sur lequel se positionner parce qu'il va en avoir des rebondissements, il va en avoir des désagréments. Donc, c'est pas fini pour lui, là.
On peut dire que la droite économique va être représentée à l'Hôtel de Ville?
La droite économique, oui. Tu sais, c'est drôle parce que Stéphane Lachance a tellement pris un positionnement sur, justement, économie, les finances. Tu sais, puis il y a eu quelques enjeux pendant la campagne qui ont mis le doute sur ses compétences réelles.
Et même sa plateforme, le cadre financier ne fonctionnait pas. Là.
Le cadre financier ne fonctionnait pas. Donc, je ne sais pas s'il va continuer tant de taper sur ça alors que Bruno Marchand, même s'il n'a pas été étiqueté comme un maire économique, du côté des finances de la ville, ce n'est pas nécessairement sa plus grande faiblesse. Peut-être plus sur l'écoute. T'sais, Respect citoyen est né sur la prémisse qu'on n'écoute pas les gens. Donc, ça va être une soupape pour une certaine partie de la population en Québec. Puis, tu sais, je dis le tramway, c'est réglé. Quand on regarde les sondages, l'appui au tramway, c'est pas extraordinaire à Québec. Ce qu'on a compris hier, c'est que même si les gens sont pas nécessairement emballés, ils se réveillent pas la nuit en sueur en ayant peur que le tramway soit construit non plus, visiblement. Là, il y a un vote assez convaincant du côté de Bruno Marchand. Mais il y a toujours un doute dans la tête des gens. Donc, ça prendrait pas grand-chose non plus pour que les gens se remettent à être fâchés, je pense.
Tu m'amènes avec Respect citoyen qui s'est basé sur le fait qu'on veut écouter les citoyens, on veut les respecter, mais c'est tout le contraire qui se produit par ces partisans-là sur les médias sociaux. Tant que la droite va s'associer à ces personnes-là, il n'y aura jamais de montée de la droite au Québec. Puis là, je pense à Respect citoyen, je pense au Parti conservateur du Québec, je pense au Parti conservateur du Canada, des mouvements de droite qui prennent jamais d'envergure et d'ampleur au Québec.
Ça ne marche pas au Québec, cette approche-là. Je pense qu'il y a un terreau fertile au Québec pour une certaine droite économique.
Vraiment.
Responsabilité financière, gros bon sens. Même en ce moment, on sent un retour du balancier sur tout ce qui est wokisme, poussé à l'extrême, ouais, là, qu'on a pu connaître dans les dernières années.
Les gens veulent de moins en moins d'intervention du gouvernement dans l'économie. Puis moi, j'en fais partie. Même, je me situe un peu plus à gauche, plus socialiste. Au niveau de l'économie, je veux que le gouvernement arrête de dépenser de l'argent dans les projets de Nordvolt et compagnie.
Mais il y a deux choses sur lesquelles les Québécois, je pense, décrochent. La première, c'est quand on tombe dans tout ce qui est conservatisme social. Ça, on n'en a pas vraiment, puis ça n'a pas rapport sur la scène municipale. Fait que c'est pas ça le problème de respect citoyen. Et l'autre, ben, c'est l'approche, c'est l'attitude d'attaquer les gens, d'avoir des militants qui s'en prennent aux élus, aux candidats sur les médias sociaux. Ça pogne pas. Ouais. Ça marche pas, ça.
Moi, c'est pas nécessairement ça. T'sais, hier, j'ai mis des posts sur ma page Facebook, là, puis j'ai dit « Pour qui vous allez voter? » Puis là, quand il y a des gens qui écrivaient sur ma page Facebook, la question était neutre, là, pour qui vous allez voter, exercer votre droit de vote aujourd'hui. Ben là, il y a des gens qui disent « Ah, ben moi, je vais voter pour Claude Villeneuve » ou « Moi, je vais voter pour Bruno Marchand » et systématiquement, les gens sautaient dessus.
Ouais, c'est ça qui
marche pas.
Les
gens ont le droit à leur opinion. Tu sais quoi, il n'y a personne de parfait. Les gens ont le droit de faire des erreurs, mais les traiter de toutes sortes de noms, vous ne les embarquerez jamais dans votre équipe. Salutations à Claude Villeneuve, Antonine Iacarini, qui a travaillé fort comme conseiller municipal, chef de son organisation. Là, aujourd'hui, il se ramasse sans emploi. Je pense aux employés aussi.
Ben oui.
De l'équipe de Samamad, de l'équipe de Claude Villeneuve.
Humainement, là, c'est pas facile, hein, des défaites comme celle-là. Puis pour Québec, d'abord, il faut quand même rappeler d'où ils arrivent. Là. En 2021, ils ont été... C'est le parti du Marlabon. Marie-Josée Savard qui avait été déclarée gagnante pour finalement, on change d'idée en fin de soirée. Donc, Claude Villeneuve qui a tenu ce parti-là à bout de bras dans les dernières années. Il y a eu des défections. Il y a eu des départs de Québec d'abord vers Québec fort et fier. Après ça, il y a eu des départs vers Leadership Québec dans la dernière année pour se joindre à l'équipe de Samamad. Donc, Claude Villeneuve qui a effectivement fait un bon travail aussi pendant la campagne électorale. Moi, honnêtement, je n'ai pas vu de grosses erreurs là, du côté de Québec d'abord pendant la campagne. Des bons débats, pas de pleurs de bananes, pas de scandales.
Moi, le fait qu'il ait dit hier qu'il ne changerait rien à sa campagne, là, j'ai trouvé ça particulier. Là. Tu peux pas t'écraser comme ça et dire « Non, non, moi, tout était parfait, je changerais rien. »
Oui, mais en même temps, je pense que la raison pour laquelle Québec d'abord, ça levait pas, c'est que les positions sont pas si différentes de celles du maire Marchand. Puis qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, qu'il change de position?
La famille de Claude Villeneuve pensait que Claude Villeneuve travaillait pour le maire Marchand. Sa propre famille.
On s'entend. Il y avait confusion. Donc, et il y avait matière à confusion. Ouais. Cela dit, quand le principal problème, c'est un positionnement politique, tu ne vas pas changer ton positionnement politique pour faire une tactique électorale. Ouais. On est d'accord là-dessus. Puis, tu sais, il y a des gens qui se posaient la question, pourquoi Claude Villeneuve ne s'est pas retiré? Pourquoi ils ne se sont pas joints à Québec fort et fier? Bien, l'équipe de Claude Villeneuve et ses élus, ils ne souhaitaient pas se joindre à Québec fort et fier. Fait qu'ils sont allés jusqu'au bout. Puis là, on a un parti qui a disparu de la map. Transition Québec aussi, Jackie Smith qui a perdu son district, son unique district et qui n'a pas réussi non plus à aller faire des gains ailleurs. Donc, on a vraiment un changement de garde. Tu sais, les partis politiques au municipal, ça se crée, ça disparaît.
Fait qu'on a une pensée pour Claude Villeneuve, pour Jack Smith, mais surtout pour l'équipe, le staff politique qui était en place. Maintenant, Sam Ahmad, on s'explique ça comment?
Ben,
il était fâché. Il n'a pas dit bye-bye aux journalistes. Il n'a pas parlé aux journalistes. Non. Il a sacré son camp.
Ouais, ben, ça, c'est niaiseux. Là.
Mais il va reparler un peu plus tard cette semaine. Des fois, c'est peut-être mieux de décanter avant de s'exprimer plus longuement. Ça dépend ce que tu veux
mais
projeter comme image.
La fameuse guerre aux médias, là, c'est de la faute des médias. Là. Moi, je ne crois pas à ça.
Il n'y a personne qui croit à ça. Ce n'est pas de la faute des médias. Ce qui s'est passé pour sa maman, je pense qu'il a sous-estimé la difficulté de la campagne. Puis il y a quelques mois, les gens se disaient « Ouh, est-ce que Bruno Marchand, ça va être un des premiers maires? » Le premier maire à Québec à ne pas être réélu. D'habitude, les maires, soit qu'ils quittent, prennent leur retraite ou ils meurent en fonction, mais ils ne sont pas battus aux élections.
Ouais.
Et ça n'avait pas l'air gagné d'avance pour Bruno Marchand. Sa maman y a vu une occasion. Opposition quand même importante au tramway. On se dit, bon, on a une fenêtre d'opportunité ici pour rentrer. Sa maman, ancien ministre de la Capitale-Nationale, tu te dis, c'est une candidature de terre. Je pense qu'il s'est surestimé et que la campagne qu'il aurait dû mener, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, tu ne peux pas seulement surfer sur ta notoriété puis dire, ben moi, j'ai de l'expérience.
Steven Blainey l'a fait.
Oui, ben ça a fonctionné à Lévis. C'est une autre dynamique à Lévis, cela dit, parce qu'on avait un départ du moment sortant.
On a-tu tendance, les boys, à... Je t'inclus des boys. On a-tu tendance, les boys, à idéaliser le passé?
Oui, clairement.
Je pense que oui. Hein.
Clairement, puis c'était ma question justement pour Antonine. Le seul candidat qui a parlé aux jeunes, c'est Bruno Marchand. Aujourd'hui, il termine à tout près de 50%. Quand tu écoutes Bruno Marchand, il parle de la ville dans 15-20 ans. J'avais l'impression que Respect citoyen, Leadership Québec me parlait d'une ville 10 ans en arrière. faut penser à cette jeunesse-là. On n'y pense pas assez quand on est politicien.
Bien, c'est drôle. Hein? Moi, je trouve que c'est un paradoxe, la jeunesse en politique, parce que tous les partis disent qu'ils veulent parler aux jeunes, mais dans le fond, ce qui est payant politiquement maintenant, parce que tu veux gagner tes élections maintenant, c'est les vieux.
Parce que, tu sais, Stéphane Lachance et Samamad ne sont même pas allés au débat à l'Université Laval.
C'est vrai.
Quelle opportunité manquée.
Tu as absolument raison. Puis aussi, la mésaventure de Samamad, ce que ça démontre, c'est que ta stratégie de communication, elle est au centre de ta stratégie et elle n'était pas au rendez-vous. Tu peux chialer contre les médias si tu veux, mais c'est comme s'ils ne jouaient pas au même sport que nous. Là.
Ouais.
Ils suivent pas les mêmes règles. T'sais, les médias, ils vont te couvrir si tu leur offres des nouvelles intéressantes dans des moments puis des fenêtres médiatiques intéressantes.
Sa maman a décidé de disparaître la première semaine de la campagne parce que ça allait pas bien. On s'entend, en termes de décision communicationnelle, c'était la pire. Il fallait qu'ils sortent puis qu'ils fassent annonce par-dessus annonce puis qu'ils reprennent le momentum.
Ça a été une des grosses erreurs. Après ça, il y a toutes les pleurs de bananes. Tu n'as pas le droit à ce genre d'erreur-là. T'sais, quand on parle de la vidéo par intelligence artificielle, utiliser des images de Montréal dans tes outils de communication. Bon, la conférence de presse dans les jeux d'eau, Québec. C'est pas grave. Leadership Québec. C'est pas chaque chose n'est pas la fin du monde. C'est juste que l'accumulation donnait l'impression d'une campagne non professionnelle, mal organisée. Ça donnait l'impression qu'il n'était pas entouré. Puis c'est vraiment ce qui a été difficile puis qui a brisé son élan en début de campagne. Puis après ça, il est devenu un peu comme fâché, amer contre les médias. Puis honnêtement, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui se fâchait contre les médias puis qui était de mauvaise humeur puis qui gagnait une élection. J'essaie d'y penser. Peut-être que vous avez un exemple à me donner. Donc, vraiment, dans la campagne
Donald
qu'il aurait
Trump.
Dû mener, Donald Trump, mais en même temps, il fait des jokes puis il danse. Là,
ouais.
Oui, c'est ça. Puis c'est un cas bien, bien particulier. Pour sa maman, ben, j'ai l'impression qu'il a sous-estimé ce que c'était d'être chef aussi. Parce que être ministre dans un conseil des ministres, t'es pas sur le gun à tous les jours, OK? Des fois, ton dossier va être dans les médias, tu vas passer des moments dans la lumière, mais les ministres, des fois, tu peux passer un mois sans qu'on entende parler de toi. Quand t'es chef, là, c'est tous les jours, tous les sujets, faut que tu commandes, faut que tu sois là. Peut-être qu'il avait pas super bien saisi la différence entre les deux.
Ça m'amène à Stéphane Lachance de Respect citoyen. Sa dernière semaine, il a décidé de se replier sur sa base. Ses médias sociaux, deux apparitions à Choix FM. Moi, je l'ai invité deux fois ici, il a dit non les deux fois. Bonne ou mauvaise stratégie? T'sais, ça y a-tu permis d'ancrer ces trois candidats puis d'être l'opposition officielle ou il aurait pu aller chercher plus large?
Je ferais une différence entre les deux, c'est-à-dire se replier sur sa base à la suite des derniers sondages qu'on avait vus, c'est une bonne chose parce que tu veux vraiment mobiliser ton monde. Il voulait se positionner comme étant l'opposition, c'était la chose à faire. Il y avait un colistier, contrairement à sa mamade qui allait disparaître s'il n'était pas
mal.
En effet,
il a fait beaucoup de promotion pour lui à Val-Bélair, justement, là, ce qui était une bonne stratégie à mon égard.
Absolument. Donc, sa stratégie électorale, elle était correcte, mais sa stratégie médiatique, quand tu n'es pas premier, là, tu devrais presque rien refuser, en fait. Tu devrais faire tous les débats, toutes les entrevues. Évidemment, c'est fatigant.
Tu devrais pas couper le soleil puis Radio-Canada de tes conférences de presse.
Absolument. Tu sais, on l'a vu à la campagne fédérale quand Pierre Poilievre avait décidé qu'il n'y aurait pas de journaliste dans ses autobus. Honnêtement, là, je suis très, très lucide sur la place que prennent les médias traditionnels chez certains publics. Justement, de ces partis plus de droite populiste, je sais qu'ils écoutent pas Radio-Canada puis TVA puis qu'ils s'en fichent complètement. Par contre, de se mettre à dos ces médias-là et de les couper, c'est qu'en fait, tu te coupes aussi de la couverture médiatique dont tu as besoin. Puis je ne pense pas que Stéphane Lachance, s'il était venu dans d'autres radios que Radio X, sa base aurait dit « Ah, oh, ben là, il s'en va à Radio-Canada. Je vote plus pour lui. » Tu sais, ça ne lui enlève absolument rien.
Il aurait peut-être une coupe.
Ben, écoute, peut-être, là. Mais tu sais, si tes électeurs te lâchent parce que tu vas faire une entrevue à Radio-Canada, ouais. C'est ce qu'on appelle de la volatilité.
Ouais, puis là, les coupes qu'il l'aurait lâché, c'est ceux qui éloignent beaucoup d'électeurs qui pourraient voter pour Respect citoyen.
Mais tu sais, plus ou moins de rien, là, mais moi, ce que j'ai constaté ici quand on recevait les candidats, là, si on posait des questions qui étaient peut-être un peu plus difficiles, on se faisait accuser d'être pro-Respect citoyen, pro-Leadership Québec ou pro-Maire Marchand. En même temps, c'est peut-être ça qui fait en sorte que Boulevard est un peu différente. On ne dit pas à personne pour qui voter.
Exact.
On fait venir les candidats ici. Ils nous parlent de leur programme. On les laisse parler de leur programme puis on questionne leur programme. Puis quand ça n'a pas de sens, c'est-à-dire une prestation comme Samamad a fait dans les dernières semaines, bien, on le mentionne. Il était constamment en train de dire aux gens, bien, moi, j'ai l'expérience. Toi, tu sais pas de quoi tu parles, mais moi, j'ai l'expérience. Toi, tu sais pas de quoi tu parles, mais moi, j'ai l'expérience. Tu sais, À place d'être condescendant, il aurait dû plus mettre des idées en place pour parler aux jeunes, parler aux payeurs de taxes.
Sam Hamad, connaissais-tu vraiment la ville de Québec? Moi, je l'ai senti complètement dépassé. Déphasé quand on parle de est-ce qu'on idéalise trop le passé. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est présenté en disant « Hey, voici tout ce que j'ai fait », mais il n'y avait aucune idée c'était quoi maintenant la ville de Québec.
C'est vrai qu'on idéalise le passé. Puis quand les années passent, puis qu'on revisite un politicien, moi, je vois des Stephen Harper qui sont devenus populaires, des Jean Charest qui redeviennent populaires. Tu sais, les gens, ils... parce que...
On a oublié la commission Charbonneau.
Tout ça,
avec Jean Chrétien, on a oublié le scandale des commandites.
Puis tu sais, même Stephen Harper, les gens... pourquoi, vous rappelez-vous pourquoi les gens étaient vraiment écœurés à la fin? Personne ne s'en souvient. Là. Ils coupaient. Ils avaient coupé beaucoup de budget, puis ils nous faisaient honte environnementalement sur la scène. Tout ça, c'est oublié. Donc, Sam Hamad, c'est un peu la même chose. T'sais. Dans le fond, on se disait à Québec, il n'y a pas de projet qui avance. Dans le temps là, que c'était Agnès Maltais qui était au PQ.
Les amigos.
Que... tout allait bien hein, dans ce temps-là.
Ben oui.
Tout était beau. Ouais. Gérard Deltel, tout était beau à cette époque-là. Donc, oui, je pense que les gens oublient.
Mais moi, il m'a déçu, là, Sam Hamad, parce qu'à un moment donné, je me suis tapé une discussion avec Sam Hamad un vendredi après-midi parce qu'il n'avait pas aimé la couverture qu'on avait faite sur son histoire. Puis là, je disais, Monsieur Hamad, tu sais, c'est à vous de sortir dans les médias puis de bien expliquer vos choses. Puis je disais, ben là, faut que je prenne mon temps, tu le sais, une campagne électorale, c'est pas la première que je fais, faut que je prenne mon temps. Ben,
Sam,
il a eu du temps
voyons.
Pour se préparer, pour mettre son programme de l'avant. Puis tout ce qu'il trouvait à faire, c'est de faire du mansplaining, là, c'est-à-dire, toi, t'as pas l'expérience, toi, t'as pas l'expérience, je vais t'expliquer comment ça fonctionne.
Hey, je suis ingénieur, puis là, il était dans la merde.
Non, ça, c'est Stephen Blaney.
Non, mais sa maman aussi disait qu'il était ingénieur.
Blaney, il avait
payé
pas le droit.
Ses cotisations. Il avait pas payé sa carte.
Il
faisait pas ses formations.
Cette
condescendance-là,
honnêtement, je m'excuse d'utiliser ce terme-là, mais ça faisait vraiment mon oncle et ça m'a fait penser à Denis Coderre. Puis honnêtement, on ne peut pas passer à côté de faire le parallèle.
Ouais.
Ça fait vieux, mon oncle. Moi, je vais vous expliquer comment ça marche. Quand c'était sorti dans les médias, là, comment il avait discuté avec Alicia Despins, il l'avait traitée comme une petite fille à qui il allait montrer comment faire de la politique municipale. Alors que ça fait huit ans qu'elle est conseillère municipale. Il l'a traitée comme sa future stagiaire. T'sais. C'est pas vraiment alléchant. On comprend pourquoi il n'y a pas eu de fusion entre Québec d'abord puis sa maman, quand on voit un peu la condescendance. Puis là, tu te dis, ah, tu sais, ça, c'est en privé. Ben non, il faisait la même affaire en débat.
Ouais.
Tu étais là, toi et Claude, là, t'as jamais rien géré. Puis toi, t'as jamais rien géré. Ben, gère ta campagne comme il faut, ça va être un début.
Bon, vous expliquez, M. Marchand, comment ça marche, les relations avec le gouvernement.
Ben, OK. Je profite du fait que t'es souvent à Montréal aussi pour te parler de Soraya Martinez-Ferrada. C'est un produit de l'immigration. C'est une dame qui vient du Chili. Elle est partie avec ses parents. Elle avait autour de 8-9 ans.
Demandeuse d'asile.
Ses parents étaient des socialistes. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour Montréal, là, le parti de Valérie Plante qui s'est fait ramasser?
Ben, c'est ça. Projet Montréal, les gens ont fait le tour. Je pense que c'est ça le message à retenir de cette campagne électorale à Montréal. Aussi, un manque d'intérêt. Là. Les indécis sont restés indécis très, très longtemps. Luc Rabouin, qui a repris la relève à Projet Montréal, n'a pas réussi à aller chercher la faveur des gens. Moi, je le vois pas ni comme un désaveu de Valérie Plante ou de Luc Rabouin. Je le vois vraiment comme un désir de changement, un peu plus de pragmatisme aussi pour la ville de Montréal. Soraya Martinez qui s'est positionnée sur des enjeux comme, par exemple, les pistes cyclables. Bon, les pistes cyclables, là, c'est pas supposé d'être un enjeu de campagne si important que ça, mais c'est devenu une espèce de symbole, hein, les pistes cyclables.
Elle veut plus de pistes cyclables, moins de pistes cyclables, ou elle veut laisser les pistes
cyclables
sont en place?
C'est pas clair.
Elle veut consulter les gens.
Dans le fond, Projet Montréal, ils sont résolument pour plus de pistes cyclables, enlever des stationnements. Hey, avez-vous vu ça passer, ces médias sociaux, dans certains quartiers de Montréal? Ils prennent un marteau piqueur, hein? Puis là, ils s'en viennent, puis ils enlèvent des places de stationnement, puis ils font des petits carrés de terre pour mettre des fleurs là-dedans.
Des bacs de rétention d'eau.
Puis c'est vrai que c'est important d'avoir des villes plus absorbantes, parce qu'on a vu qu'est-ce que ça a donné pour les inondations, mais on peut-tu commencer par les maudits terrains vagues qui sont partout, puis les bâtisses, les verrues urbaines, avant d'enlever des places de stationnement.
Ben c'est ça, c'est parce qu'à Montréal, je me promène, puis je peux t'en démolir 5, 6, 10 bâtiments.
On a des idées, hein?
Puis là, on peut faire des beaux parcs avec ça, puis des beaux bassins de rétention. C'est ça, les fameux parcs éponges.
Oui, mais...
on n'est pas obligé de voler une place de stationnement. Là.
Exactement. Puis Projet Montréal, dans son programme, c'est dit extrêmement clairement qu'on veut enlever des places de... C'est pas on fait des parcs éponges, fait que là, il va y avoir des dommages collatéraux, c'est on enlève des places de stationnement parce qu'on veut pas que les gens aient des chars dans nos quartiers centraux à Montréal. Donc, ça, là, cette approche-là de Projet Montréal, on sent vraiment une écœurantite chez une partie de la population qui ne sont pas nécessairement contre les pistes cyclables. Tu sais, ces bassins de rétention, en passant, là, c'est pas une piste cyclable. Là, même les cyclistes là, sont comme, voyons donc, t'as coup, il y a une piste cyclable, t'as coup, il y a un jardin dans le milieu de la rue. Là. C'est ça qui se passe présentement.
Puis là, t'as coup, je vais être obligé de circuler entre les chars, puis c'est pas même sécuritaire pour moi.
C'est pas vraiment mieux. Donc, je pense que Soraya Martinez-Ferrada, elle n'est pas nécessairement contre les pistes cyclables.
Ouais,
on a été déconcentrés parce qu'il y a quelque chose qui est apparu dans la fenêtre du studio.
On est au cinquième étage.
C'est ça.
Puis c'est rare qu'on voit des gens. Là, il y a quelqu'un qui escalade la bâtisse.
Spider-Man. Spider-Man est parmi nous.
Désolée pour ce petit couac. Mais elle veut faire un audit sur les pistes cyclables. Okay. Fait que tu as le choix entre des gens qui veulent mettre des pistes cyclables, enlever des places. On est vraiment plus dans la guerre à l'auto, j'ai envie de dire, alors que du côté d'ensemble Montréal, on n'est ni dans la guerre à l'auto, ni dans le tout à l'auto non plus. Puis je pense que c'est cet aspect-là qui est allé chercher un peu plus les gens, parce que dans les dernières années, là, on était dans le, comment dire, l'expérience Projet Montréal sur l'île de Montréal, et ça a donné des résultats peut-être un peu mitigés.
Ouais, je la connais pas. C'est un bon, on a parlé que ses parents étaient très socialistes, là. J'imagine qu'elle a une base de socialisme en elle. Mais pour ce qui est de son programme, ça ressemble à quoi? C'est-tu quelque chose de très, très à gauche? Es-tu encore plus à gauche que Valérie Plante?
Non, non, vraiment pas. Puis d'ailleurs, Projet Montréal a accusé Ensemble Montréal d'être de droite, là, puis c'était un gros virage à droite là, à Montréal avec l'élection de Soraya Martinez-Ferrada qui a été ministre sous le gouvernement Trudeau, un autre gouvernement terriblement de droite, là, on s'en rappellera.
Elle était au tourisme. Hein?
Tourisme, développement économique du Québec, c'est une fille de l'Est de Montréal, très impliquée. Les députés fédéraux, tu sais, souvent, on les voit pas bien. Ils répondent pas beaucoup aux demandes d'entrevue. Ça prend 3-4 jours avant qu'on ait des nouvelles. Pas elle, OK? Elle, c'en était une qui était hyper accessible, disponible, très, très proactive. Elle a notamment fait preuve de beaucoup de leadership dans tout ce qui est question de l'Est de Montréal. À Québec, on est moins au courant, mais l'Est de Montréal se sent très négligé par rapport au reste de l'île. On a moins de services. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans lequel il y a des chauves-souris puis des inondations toutes les semaines.
On se demande plus comment empêcher l'eau de rentrer. On se demande comment dévier l'eau dans l'hôpital pour être sûr et certain que ça se rentre jusqu'en bas puis ça soit
évacué. Ouais. C'est une honte nationale. Transport collectif qui est beaucoup moins bien desservi aussi dans l'Est de Montréal. Développement économique qui est moindre que dans le reste de Montréal. Donc, Soraya Martinez, elle a été très proactive dans ces dossiers-là pour organiser notamment un sommet économique, etc. Donc, elle a cette aura et elle a une approche un peu plus pragmatique, j'ai envie de dire, que Projet Montréal. On verra qu'est-ce que ça donne. Elle a dit qu'elle serait très active dans les 100 premiers jours. Elle a mis aussi l'accent beaucoup sur la culture, ce qui est peut-être un peu différent de ce que je me serais attendu comme positionnement, étant donné qu'on veut se différencier de Projet Montréal. Je pensais que ça allait être très, très économique, mais la culture semble être très, très importante pour elle. On verra qu'est-ce que ça donne concrètement à Montréal.
Est-ce que Montréal peut redevenir une ville pour les familles?
Non.
Non?
Écoute, avez-vous vu le prix des maisons à Montréal?
Oui.
OK, moi, je travaille à Montréal régulièrement, j'habite à Québec. Il y a des gens qui me demandent à peu près à toutes les semaines pourquoi je ne déménage pas à Montréal tellement que j'y vais souvent. Je leur dis « Parfait, trouvez-moi une maison avec 3 chambres à coucher dans un quartier dans lequel vous vivriez avec une école qui a de l'allure pour moins de 1 million de dollars. »
Prix moyen des maisons dans la métropole, 1
million 834 $. OK, ça répond à ma question. Merci.
Comment veux-tu? Puis on t'enlève... Excuse-moi, là, je vais vraiment faire ma fille de Québec, mais on t'enlève tes places de stationnement. Moi, j'ai 2 enfants. Puis là, en plus d'être dans une maison d'un million, il faut que j'aille les porter à la garderie
en
métro.
Ma question était, est-ce que Soraya Martinez-Ferrada peut arriver à faire ça? La réponse est clairement non. Merci.
Je pense que c'est très, très difficile. Puis les maires et mairesses n'ont pas beaucoup non plus d'emprise quand même sur le coût de la vie. Là. Je veux dire, c'est un phénomène coast to coast en ce moment dans les grandes villes, que ce n'est plus accessible pour les familles. Mais c'est sûr qu'il y a certaines choses que tu peux faire pour rendre ta ville plus accueillante pour les familles. Notamment, la sécurité. Je pense que c'est un enjeu qui est important dans toutes les villes en ce moment. On a vu le visage de nos quartiers se transformer. T'sais, par exemple, là, toi, tu te lèves le matin, tu sors avec tes enfants, puis tu t'enferges dans des gens qui prennent de la drogue devant chez vous, puis devant des seringues. Tes enfants vont jouer au parc, ils s'enfergent dans des seringues. Tu sais, ça, la ville a une emprise là-dessus et ça peut faire une différence pour comment les familles ont une qualité de vie là, sur l'île de Montréal et dans toutes les municipalités du Québec.
Renouveler tes rues commerciales aussi pour attirer des gens.
Puis la crise du logement, ça demeure un enjeu qui est tellement important parce qu'on a vu que dans les municipalités, il y avait plusieurs blocages qui étaient entre les mains des municipalités qui ralentissaient, qui faisaient des obstacles pour la construction de logements. Donc, ça aussi, là, à Québec, on l'a vu, le début du mandat de Bruno Marchand, ça allait pas rapidement, c'était vraiment compliqué. Puis je pense que les élus municipaux et les administrations municipales sont en train de comprendre là, comment il faut changer les choses pour que ça construise davantage. Puis c'est pas juste un enjeu de Montréal, c'est dans toutes les villes maintenant du Québec.
Salutations aux gens de la Beauce. Autant Saint-Georges que Sainte-Marie ont élu des femmes comme mairesse. Je salue Luce Lacroix, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pendant des années, qui s'occupait des CPE et tout ça, qui est maintenant rendue mairesse. Et pour ce qui est de Saint-Georges-de-Beauce, on a Manon Bougie, que je ne connais pas, qui est la nouvelle mairesse de Saint-Georges. 81 % des voix.
Quand même soviétique comme score.
On demande un recomptage.
C'est convaincant. Puis tantôt, tu avais raison, Jeff, quand on parle de recomptage, il n'y a pas de chiffre exact au municipal. Ouais. C'est un juge qui va décider, mais généralement, quand on est autour de 1 % là, des voix, le recomptage est accepté.
Ouais, c'est ça, 228 voix au Saguenay, là, selon moi, ça va être accepté.
Ça risque d'être un recomptage. Finalement, André Laforêt, là, qui l'a pas eu aussi facile qu'elle pensait en démissionnant de son poste de ministre. Il y a une autre ancienne ministre qui a été élue hier, c'est Marie-Claude Bibeault à Sherbrooke. On a quand même pas mal de mairesses encore, il faut dire. Là. Les conseillers municipaux, la parité, c'est pas génial, mais on a quand même dans les grandes villes pas mal de mairesses.
Mais ils vont servir de modèle pour d'autres femmes qui seraient intéressées à se lancer en politique. Puis
encore faut-il qu'il y ait des expériences agréables.
C'est ça,
parce qu'on a vu dans le dernier mandat qu'il y a plusieurs mairesses qui se sont découragées.
Ça va dépendre du traitement qu'on leur fait.
Exact.
C'est Véronique, elle travaillait à TVA à l'époque, elle est devenue députée pour le Parti...
Véronique Yvon.
Véronique Tremblay. Ben oui.
Devenue députée pour le Parti libéral.
À tous les jours, elle avait des commentaires sur son habillement quand elle était à TVA. Ouais. À toutes les fois qu'elle changeait de coupe de cheveux, il y avait des madames qui écrivaient pour dire «
Mais c'est pas beau tes cheveux! »
Quand ta repousse n'est pas faite, t'en fais pas, tu reçois un courriel de Roger, il te le dit.
C'est vrai?
Votre repousse. Oui, oui.
Elle m'a dit que c'était fille qui était plus méchante avec nous autres.
Les deux.
Ah, moi, tu te fais dire ça, toi, quand tu passes à la TV?
Tout le temps.
Moi, tout le temps?
9 commentaires sur 10 sont sur mon apparence. Mm-hmm. 1 commentaire sur 10 sur le contenu. Okay? C'est vrai que autant les hommes que les femmes font des commentaires sur l'apparence physique. Ben. Il y a plein de commentaires gentils. Là. Mm-hmm. T'as du beau linge, des beaux cheveux, gnagnagna. Mais une fois de temps en temps, oui. Votre maquillage, mon préféré, moi, c'est votre maquillage est déplorable.
Ah, c'est vrai. Mais
c'est
toi qui te
maquillais. Ben oui, c'est moi qui me maquillais quand j'étais à Québec. Je t'ai bien insulté. Puis moi, j'aime ça après ça. Déplorable, c'était le mot qu'il avait utilisé avec son iPad, ce monsieur. C'est un monsieur de Lévis. Moi, j'aime ça aller voir leurs photos de profil.
Oui.
Puis là, je suis comme lui. Ça doit être un mannequin qui défile pour Chanel, là, s'il me permet de me chialer sur mon maquillage.
C'était ça?
Ben, c'était un petit monsieur là, avec pas beaucoup de cheveux. Là, il était. Tu sais, moi, j'ai pas de commentaires à faire sur l'apparence physique des gens, mais je trouvais que, honnêtement, tu sais, les conseils de maquillage, peut-être pas.
Je veux pas te diriger ta carrière ou ta future carrière, mais sache qu'à la radio, 100 % des commentaires portent sur ton contenu et pas mal 100 % des auditeurs sont contents. Fait que je te dis ça de même. Présentement, t'es à Boulevard.
Tu prêches pour la radio, là.
Ben, parce que t'auras pas de commentaires sur ton apparence. Les gens t'écoutent et t'apprécient.
Puis faire de la radio sur l'heure du midi, Antonine, tu sais, c'est vraiment un bel horaire.
Ça, c'est une belle job.
Tu peux te coucher tard,
on dirait que vous me parlez comme si j'allais m'en aller. Je suis tellement heureux. C'est vraiment un grand privilège de faire de la radio. Puis honnêtement, c'est le meilleur média, la radio.
Les vendredis sont plus intéressants, en plus. C'est plus relax.
Mais je suis pas là le vendredi.
Oui, mais
c'est pour ça que tu trouves ça intéressant?
Ben non, mais c'est plus intéressant de travailler le vendredi.
Ouais. Tu trouves?
Ben oui! Parce que là, toi, tu le sais pas, c'est quoi travailler le vendredi. Mais...
hey, un instant, je tiens à dire que je travaille le vendredi.
Oui, t'es toujours
c'est
sur
RDI. C'est juste que je suis pas ici.
Je finis l'émission, on en jase, puis je te vois toujours dans ma TV.
Je te dis, si le vendredi, tu le regretterais pas. Mais c'est ton choix.
En tout cas, ben, chose certaine.
Je travaille pour toi, moi. Là.
Ben, je le sais, puis merci beaucoup. Mais chose certaine, elle n'aurait plus de commentaires le vendredi sur son maquillage. Comment qu'il y a de ça, là?
Déplorable.
Déplorable.
Déplorable. Déplorable, Yacarini, ça a été un plaisir.
Bonne semaine.
Salut, à tantôt.
Merci d'être dans le pit stop. Sur la route, comment ça se passe?
C'est compliqué par endroits, là, entre autres l'accès aux deux ponts présentement direction nord. Cela dit, ça s'est déjà amélioré par rapport à un petit peu plus tôt, fait que bonne nouvelle. Toutefois, il y a un véhicule en panne sur la capitale ouest, hauteur boulevard Saint-Jacques, ce qui fait que de cette hauteur-là jusqu'à peu près l'avenue du Beau-Royal, c'est ben jamé, mais c'est pas mal le seul gros point chaud à Québec. Boulevard 102.1 Marceau.